Ma meilleure amie est morte, j'avais 13 ans. Depuis j'ai le cœur qui bat chaque fois que je vois une ambulance. C'est pour les optimistes qui pleurent, les plus courageux des peureux. J'arrive pas à être triste, moi j'ai trop de gens à rendre heureux. Qu'est-ce qu'il veut me dire le vent quand il souffle autant? Je suis toujours pressé, pourtant y'a personne qui m'attend. Je vais changer, évoluer, grandir évidemment. Mais je fais quoi si tous mes potes préféraient celui d'avant? Je sais à peine changer une ampoule. Aïe, yeah. J'ai compris que je changerai jamais le monde. Je suis de l'équipe des gens qui doutent, ouais. Comment ils font, ceux qui avancent, ceux qui se relèvent quand ils tombent. Si la vie frappe, je rends les coups,
ouais. Pas des. Il y a quelques mois, j'ai regardé le documentaire Sœurs sur France TV Slash. C'est l'histoire de deux sœurs dont l'une fait une grave dépression pendant plusieurs années. J'avoue que j'ai été interpellée. Je connais la dépression, j'ai connu des personnes dépressives ou ayant des états dépressifs, mais en regardant ce documentaire, j'ai compris que je n'avais jamais été une aidante. Car vivre quotidiennement avec quelqu'un ayant une dépression, c'est être un soutien physique et un soutien psychique permanent. C'est être vigilant, conscient et surtout aimant. Ce documentaire, ça m'a rappelé toutes les fois où mon arrière-grand-mère racontait la dépression de mon arrière-grand-père. Ce que la maladie engendrait, la douleur qu'il ressentait, l'envie de mourir, puis les rires, la perte de repères, la perte de sens. Et quand j'y pense, j'ai tout un tas d'images qui s'installent dans mon esprit. Qu'a-t-il bien pu ressentir? Qu'a-t-il bien pu vivre? Et au fond, je me suis surtout demandé, mais qu'est-ce que c'est exactement la dépression? Ici Lisa, pour la chronique Être bien de la Radio Girafe. Aujourd'hui, nous interrogeons la dépression. La dépression est un mot que l'on entend partout, dans les médias, dans les conversations, dans les statistiques, parfois même dans nos familles. On la cite souvent, on la redoute parfois, mais on la comprend assez rarement dans toute sa complexité. Derrière ce mot, il y a des visages, des corps fatigués, des silences, des vies mises entre parenthèses. Il y a aussi des proches, des aidants, des témoins, souvent démunis, parfois épuisés, mais presque toujours aimants. Dans cette première partie, j'ai voulu prendre le temps de regarder la dépression en face. Pas pour la réduire à une définition médicale, ni pour la figer, mais pour comprendre ce qu'elle fait à celles et ceux qui la traversent et à celles et ceux qui vivent à leur côté. Car avant de chercher comment aller mieux, encore faut-il savoir de quoi l'on parle. Qu'est-ce que la dépression réellement? Où s'installe-t-elle? Dans le corps? Dans la tête? Dans l'histoire de vie? Dans la biologie? Dans l'environnement? C'est cette enquête-là que je vous propose de mener aujourd'hui.
Alors, j'ai senti que vraiment, ça n'allait pas. Et que c'était pas juste un coup de cafard qui arrive au commun des mortels. C'est quand ça s'est répété et que surtout c'était intense dans le sens où j'avais l'impression de ne plus être capable de trouver une solution par moi-même et surtout j'avais l'impression que j'avais ouvert la porte à tous mes démons entre guillemets. Chaque pensée à la seconde, ça n'arrêtait pas en fait et ça tournait en rond de manière négative en fait. Et c'est ça où là je me suis dit c'est pas un petit coup de mou en fait. Quand ça devient régulier et quand ça soit, enfin que ce soit aussi intense dans les pensées, dans qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir, pourquoi je ressens ça, et ça ressasse et ça creuse de plus en plus en fait.
Comment tu définirais la dépression?
Alors, la dépression est une maladie mentale très grave, qu'on a vraiment des difficultés à soigner et à même à guérir. La dépression est liée souvent à une souffrance pour enfance, alors qu'elle peut être diversifiée, hein, des humiliations, toutes sortes d'humiliations, qu'elles soient des viols, des incestes, des parents qui se séparent violemment, ou des enfants qui peuvent être dans leur famille mais dont on ne se préoccupe de rien. Et le plus grave qui existe en ce moment, ce sont les portables très jeunes, les réseaux sociaux, la pornographie dans les réseaux sociaux Et bon, les réseaux sociaux qui incitent certains jeunes à se suicider. Alors évidemment, ils se suicident aussi parce qu'ils ne vont pas très bien. Hein. Mmh. Bon, faut pas non plus jeter la pierre à tous les réseaux sociaux et dire que le réseau social est... Mais je pense que le réseau social a un impact sur les jeunes et les moins jeunes.
Oui, d'accord.
Parce que tout le monde utilise les réseaux sociaux. Et même un écran a un impact sur un enfant, un adolescent et un adulte.
Et ce que j'ai ressenti dans ces moments très intenses, c'est vraiment d'être dans un brouillard, de pas voir l'avenir, mais même l'avenir de juste demain, en fait.
J'ai senti que j'allais pas bien, mais j'arrivais pas à mettre le terme dépression sur ce qui m'arrivait. Donc voilà. C'était un peu compliqué. Jusqu'à ce que, en parlant avec un ami à moi, qui me fasse la mention, c'est là où j'ai réalisé que j'étais vraiment en dépression. Et c'était très compliqué de l'accepter. Et du fait que la maladie que je porte depuis l'année dernière, parce que j'ai subi une triple opération du cerveau, a fait que ça a changé toutes mes facultés. Même si j'ai retrouvé une partie, il y a des trucs où j'ai encore du mal. Donc voilà. C'était des différents chocs émotionnels qui ont amené une dépression qui a duré, on va dire, un an et demi à peu près, au total. Je vous épargne tous les épisodes socioprofessionnels ou autres. Voilà, c'était le moment où j'ai vraiment statué sur le fait que j'étais en dépression.
C'est quoi ma vie en fait ? C'est quoi le but ? Pourquoi je suis là ?
Bah, il y avait ce truc de... déjà le fait que il y a des troubles alimentaires qui se sont croisés au fait d'aller mal. Il y a eu de la boulimie, de l'hyperphagie. Et du coup, c'est vraiment en me disant pourquoi j'ai besoin de remplir un espèce de creux en moi par la nourriture. Donc après, ça a développé encore plus le poids qui a empiré le truc. Donc pour identifier que ça allait pas, je pense que juste c'était vraiment le truc de quand je suis chez moi, je suis jamais vraiment heureuse. D'avoir des propres paroles envers soi très dures, des réflexions en permanence très très négatives j'ai toujours eu ce truc d'avoir une sorte de nuage au-dessus de la tête de même quand tu fais des blagues, tu le sens toujours un peu. T'as toujours le cerveau un peu embrumé par des phrases négatives, des pensées négatives parasites qui font que à part le fait de te cacher par le fait de faire des blagues, tu sais que les 90% du temps t'es malheureux avec toi-même et avec les autres. Donc je pense que c'est plus, ça s'est traduit beaucoup par les troubles alimentaires, je pense.
Et après ça tire vers comme une toile d'araignée, vraiment un filament de mais j'ai tout raté, et tatati. Et en fait, ça soulève que le négatif. Et même si en face de toi, on peut te dire, mais non, il y a eu ça, il y a eu ce truc. Non, vraiment pas. J'étais au plus bas de moi-même, en fait. En lien avec ce placard à démons que dès que t'as des traumas, dès que t'as des trucs, des situations où tu sais pas trop gérer, en fait, moi, je mettais le masque de la joie de vivre, le masque de « oh, ça va aller, c'est comme ça la vie ». Et puis, en fait, tu les ranges juste au grenier, mais après, il suffit d'un déclencheur, entre guillemets, ou plusieurs, pour te mettre dedans et d'être face à ta réalité, en fait.
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, enfin selon ta définition, ce qu'est la dépression, tout simplement?
C'est un état qui est à la fois biologique et puis psychique aussi, qui empêche la personne d'avoir accès à ses capacités, de pouvoir être dans sa pulsion de vie, on va dire, au contact aussi avec ma lecture à moi émotionnelle et puis mentale, de plus avoir accès à ses émotions, avec une expansion de ses émotions, ou alors avec une exubérance, on va dire, d'autres émotions, enfin exubérance en tout cas, un excès émotionnel comme celle de la tristesse par exemple, qui va apprendre un aspect qui sera tellement puissant que ça va empêcher toute autre la pulsion vie de pouvoir circuler dans le corps et puis permettre à la personne de pouvoir être dans son quotidien avec une énergie suffisante.
Ok.
Cette dépression peut être aussi accompagnée de pensées intrusives, récurrentes, négatives, qui va donner des phrases ou des schémas types qui vont être de l'ordre de la négation de la personne qu'on est, avoir à l'empêcher d'avoir accès à l'estime d'elle-même, qui va empiéter sur cette estime-là, qui va la déstructurer aussi. Donc ça va avoir à la fois un impact biologique, physique, émotionnel et puis ensuite mental également.
Selon le site santémentale.fr, les Français sont les plus touchés par la dépression de toute l'Europe, car le taux est de plus de 11% et c'est le seul pays qui dépasse ce seuil. Dans le monde, 280 millions de personnes seraient concernées selon l'OMS. D'autant plus, depuis la crise Covid-19, la santé mentale est devenue l'un des sujets numéro 1 en termes de santé publique, car on s'est enfin rendu compte que la santé psychique était aussi importante que la santé physique. Qui plus est, c'est un des sujets d'avenir car les jeunes sont extrêmement touchés. Selon l'OMS, 10 à 20% des enfants et adolescents souffrent de problèmes de santé mentale dans le monde. Alors maintenant, si on doit parler de l'étymologie du mot dépression, ça vient du latin depressio qui signifie abaissement, et aussi de depressum ou deprimere qui signifie enfoncer ou rabaisser. La dépression serait donc une maladie qui engendre l'enfoncement? Le rabaissement? À quoi pensez-vous quand on vous dit le mot dépression, culturellement? Quelle est l'image de la société que la société a construite autour de la dépression? Qu'est-ce que la dépression est dans notre inconscient collectif? Posez-vous la question. Moi, étrangement, j'imagine une femme triste, seule, désespérée, ou alors j'imagine une personne mal au point. En fait, j'associe la dépression au fait qu'elle soit vraiment visible physiquement. Comme si la dépression, bien qu'elle soit principalement une maladie psychique, se voyait sur le visage, s'inscrivait dans nos traits et dans nos postures. Et c'est peut-être ça qu'on devrait se poser comme question finalement. Quelle place prend la dépression lorsqu'elle s'installe? Où s'invite-t-elle dans nos vies, dans nos corps et dans nos relations? Et comment fait-elle pour s'y loger sans même qu'on s'en rende compte? Donc pour la définir de manière brute, la dépression, c'est un état psychique, caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur accompagnés de plusieurs autres symptômes, tels qu'une faible estime de soi, des difficultés à se concentrer ou à mémoriser, une perte ou une prise de poids plus ou moins importante, des troubles du sommeil, ainsi qu'une perte de plaisir ou d'intérêt. Ça s'appelle l'anhédonie. Dans les activités que d'habitude on ressent comme agréables, et elle peut aussi amener à une perte d'intérêt pour la vie. En fait, la dépression, c'est une maladie dont on parle tout le temps. Elle est omniprésente, c'est un peu le mal du siècle. Et pourtant, elle est mystérieuse, elle est impalpable. Et quand on ne la connaît pas personnellement, elle questionne. On la repère sans la diagnostiquer, et parfois, on préfère même l'ignorer. Elle nous fait des signes, et on ne les regarde pas. Elle est plutôt sournoise, la dépression. Elle est surtout ténébreuse. Pas ténébreuse comme une femme style rock en tenue de cuir sur une moto. Ténébreuse comme les abîmes qui me tirent pour visiter leur noirceur. La dépression questionne. Pourquoi mon arrière-grand-père est-il tombé malade de dépression comme ça? Presque du jour au lendemain. Quel a été le chemin de sa souffrance? Était-ce biologique ou environnemental?
En tant que thérapeute qui accompagne les personnes qui peuvent avoir vécu des épisodes dépressifs, qui peuvent être dans un moment dépressif, et puis il y a la dépression profonde également, ça peut être multiple, effectivement. Il peut y avoir des dépressions qui vont être installées dès l'enfance, qui peuvent être en lien avec une problématique de lien d'attachement. Si lorsqu'on est arrivé au monde, il n'y a pas eu un accueil qui a permis de garantir une sécurité intérieure fondamentale pour le bébé et l'enfant en devenir, ça peut déjà installer une forme de dépression qui peut ensuite se déclarer un petit peu plus tard. Il peut y avoir aussi des événements traumatiques qui peuvent installer une charge émotionnelle qui va également être douloureuse et puis accompagnée tout au long du parcours de vie. Donc ça peut s'installer très très tôt, ou des événements où je suis en lien avec des problématiques surtout de lien d'attachement. Voilà. Okay. Donc une situation de séparation qui peuvent réactiver ces ressentis de tristesse profonde. Il peut y avoir plusieurs facteurs, mais la qualité du lien d'attachement va faire en sorte que on va le vivre avec une intensité qui sera différente selon les uns et les autres.
D'accord.
Donc quand il y a des épisodes dépressifs ou une dépression profonde, de travailler avec les aspects émotionnels qui concernent l'enfant. Et dans la thérapie, souvent l'angle mort, pour utiliser ce terme-là, qu'on ne voit pas en thérapie, c'est le bébé également. Donc la façon dont ce bébé a pu être accueilli, accompagné, ou comment on a répondu à ses besoins fondamentaux, pas uniquement des besoins de survie, mais des besoins émotionnels fondamentaux, et notamment celui de l'attachement et de la sécurité, peut aussi installer en tout cas une fragilité qui peut conduire éventuellement à une dépression ensuite. Tout dépend des ressources qu'on va pouvoir trouver ensuite à l'extérieur et auprès des personnes qui vont prendre soin de nous. On peut avoir vécu des moments difficiles, compliqués, si les liens d'attachement sont suffisamment présents et sécurisants, on va le traverser avec moins d'impact. Voilà. Okay. Alors la dépression, elle existe à tout âge, comme je viens de te l'indiquer, ça peut être aussi déjà dès le bébé. Voilà. Donc chez l'enfant aussi, on va le retrouver chez l'adolescent et puis on va le retrouver ensuite chez les personnes adultes. Oui. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir le repérer dans un premier temps. Et puis d'accompagner au mieux. Voilà. Donc pour l'enfant, les personnes qui vont être ressources pour lui, ça va être effectivement ses parents. Okay. Donc de permettre qu'il y ait une compréhension de ce qu'est en train de vivre émotionnellement cet enfant, ça va être un accompagnement qui sera à la fois de soutien pour les parents et également de soutien pour l'enfant. Et de repérer ce qui est fragilisé, c'est cet enfant, et qui est source de dépression. Est-ce que c'est sa qualité de lien avec les personnes autour de lui, donc ses parents? Est-ce que c'est une difficulté à rentrer en lien et en relation avec les autres? Est-ce que c'est la perception qu'il a de lui-même qui est fragilisée? Donc on va repérer un petit peu quels sont les aspects qui ont installé cette tristesse, qui ont conduit à de la dépression, et travailler ces aspects-là avec lui et son environnement également, c'est-à-dire ses parents. Un enfant tout seul n'existe pas.
Ok.
On va procéder à l'accompagnement de cette manière-là. Et parfois, il faut aussi un accompagnement médical, hein, bien sûr. Hein, on n'est pas dans la prise en charge, d'envisager aussi qu'il y ait un pédopsychiatre qui puisse accompagner cet enfant et puis évaluer aussi cette dépression et peut-être installer des soins qui vont être renforcés.
Selon le psychiatre, président du conseil de la Fondation allemande d'aide à la dépression et prévention du suicide et dirigeant à l'Alliance européenne contre la dépression, Ulrich Egerl, la dépression est une maladie fréquente et grave. Il considère qu'il existe une prédisposition biologique à la dépression. Il considère aussi que les médicaments sont essentiels au traitement. Et quand j'ai demandé à Catherine, que vous avez déjà entendu juste avant, pas juste avant, mais encore avant, qui est une ancienne infirmière psychiatrique, puis une psychologue clinicienne, ce qu'elle en pensait, elle m'a dit qu'il n'y avait rien de biologique à la dépression. Donc en fait, c'est vraiment, ça dépend vraiment des écoles et ça dépend vraiment des interprétations de chacun.
Il n'y a aucune part de génétique ?
Non. Et on peut retrouver dans la famille, on peut retrouver dans la famille des personnes dépressives, mais ça n'a pas de lien génétique, au sens génétique du terme.
Ok. Mais, parce que c'est vrai que parfois, on le dit, ça. Il y a des gens qui le disent. Dans ma famille, tout le monde est dépressif.
Oui.
C'est particulier, ça s'explique...
Je pense que c'est pas vrai.
Ok.
Je pense que c'est pas vrai. Mais c'est une manière de dire, bah, c'est pas de ma faute. Mm. Mais c'est jamais de leur faute.
Ouais.
On n'est pas responsable de sa maladie.
Bah ça, c'est intéressant de dire ça, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, tu vois, quand on écoute un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, justement, dans les médias, dans le développement personnel, beaucoup, on parle beaucoup de prendre sa responsabilité.
Oui, mais c'est pas pareil. On n'est pas responsable de sa maladie, mais il est important que, pour pouvoir se soigner, on donne, c'est un exemple, il y a une part de responsabilité, c'est-à-dire sa responsabilité, ça peut être aussi donner un peu d'argent. Ça peut être... en psychanalyse, il faut payer. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais d'accord. Ça a un sens, l'argent. Mmh. L'argent. Mmh. Le tout gratuit, ça n'existe nulle part. Pourquoi là, ça serait le tout gratuit ?
Mmh. Ok.
Il ne s'agit pas de faire payer tout aux parents, ni de faire payer tout à l'enfant, ni de faire payer à l'adolescent, ni à la personne qui travaille. Mmh. Mais il s'agit aussi de se responsabiliser et de se dire à un moment donné, si on est malade, c'est aussi la manière dont on vit les choses. Une même personne dans une même famille qui est dit entre guillemets absente ne sera pas forcément dépressive. Elle trouvera un subterfuge là pour s'organiser autrement. Il y en a qui le seront.
C'est quand même et c'est ça qui est quand même parfois déstabilisant. C'est que, par exemple, imaginons des frères et sœurs.
Oui.
Des frères et sœurs qui ont plus ou moins totalement la même histoire de famille. Enfin, on n'a jamais vraiment la même histoire parce qu'on n'a pas le même rapport avec ses parents. Mais il y a beaucoup de gens qui vont penser qu'ils ont la même histoire. C'est pas, c'est pareil. Les parents ont éduqué de la même manière, etc.
Non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai selon toi ?
Non.
Non ? On n'éduque pas ses enfants de la même manière ?
Non.
Okay.
Parce que c'est une personne différente.
Mm. Parmi les autres écoles, il y a celles comme Thorsten Padberg, qui est thérapeute comportementaliste et professeur à l'école supérieure de psychologie de Berlin, qui considère que les causes de la dépression se trouvent dans la vie même, et non dans notre corps, et que les malades peuvent se soigner sans médicaments.
Je pense que... ma dépression vient du fait que j'ai enfoui au lieu de gérer. Je pense que fatalement, elle vient aussi d'un héritage familial, d'une branche très dépressive qui ne s'en est jamais trop sortie aussi. Donc ça faisait partie aussi de mon quotidien en tant qu'enfant. Je pense que c'était quelque chose que je ne voulais pas et que je voulais absolument éviter parce que j'ai vécu des situations à gérer des adultes dépressifs et c'était catastrophique de voir que on peut arriver à ce point-là et d'être autant dépassé. Et puis c'est pas le rôle d'un enfant de s'occuper d'adultes malades. Et en plus, c'était pas... encore très tendance de parler de maladie mentale, d'être dans l'acceptation et dans le de guérir, c'était un peu une fatalité de baisser comme ça, c'est tout, en lien avec le passé, toujours en fait, en lien avec des émotions qui ont été refoulées, des attentes qu'on n'a pas forcément eues auprès de parents, et ainsi de suite. En fait, ça a découlé, et j'en avais très très peur, sauf que en fait, je me le suis pris en pleine face. En lien avec la naissance de mon enfant. Ça a découlé, en fait, du postpartum. Et du coup, la dépression est partie de là. Elle a été accentuée par le décès de ma maman. Et du coup, en fait... le fait de devenir mère sans avoir sa mère, tu vois, il y avait pas ce truc de j'ai pas eu mon petit livret d'accueil fait par ma maman à me dire s'il fait ça, t'inquiète pas, s'il y a truc, t'inquiète pas. Non, j'étais dans j'ai dû me débrouiller toute seule à mon grand, enfin c'est mon habitude en fait, par le courage, la force et tout. Donc, ça a été au début. Et puis, d'un coup, je me suis vue, en fait, face à moi-même, à me dire j'ai envie de me jeter du balcon, j'ai envie de disparaître, j'ai envie... Donc, que des idées pas terribles, noires, des... Voilà. Et là, je me suis dit, oula, là, il y a un souci. Tu dois t'occuper aussi d'un nouveau-né. Donc, du coup, c'est là où j'ai pris un peu en main ce truc de ça va pas durer. En fait, ça va pas. Enfin, dans le sens où ça peut pas durer éternellement. Et c'était. En fait, moi, je voulais arrêter cette coulée de bougies de mes ancêtres, de cette famille, tu vois, qui a transmis un peu cet adam, cet état dépressif. Même en lien avec les saisons, tu sais, c'était très une fatalité pour moi, je pense que c'est ça. Et du coup là, je voulais arrêter ça. Donc quand ça m'est arrivé là, je me suis dit en fait, tu fais quoi, tu vois. Et il était tard, tu vois, j'étais sur dehors sur mon balcon à me dire en fait c'est quoi là, tu mets fin à tes jours, ok, et puis ton fils voilà, quoi. Il a une vie bancale, entre guillemets. Il grandira pas avec sa maman. Toi, t'as perdu ta maman, tu sais ce que c'est. Enfin, voilà. Il y avait deux options, en fait. Et de l'autre côté, c'était, en fait, il est temps de prendre soin de toi, mais pour de vrai. Pas juste faire face, rigoler, faire celle que... qui gère tout, alors que là, tu te prends tout en pleine face. Et je pense que, voilà, déroulé ainsi. Et puis après, j'ai pris rendez-vous. J'ai tout de suite été voir, tu vois, une psychologue. Enfin, j'en ai fait plusieurs avant de trouver la bonne. Et puis après, tout est rentré dans l'ordre jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel événement qui fait que... ça m'a fait replonger, mais là, plus difficilement.
Depuis le début de cet épisode, quand je vous parle de dépression, je vous parle de maladie. Mais j'avoue qu'en écoutant Thorsten Padberg, dans ce documentaire sur Arte, j'apprécie le fait qu'il trouve important de ne pas trop insister sur la notion de maladie, bien que ça en soit une. Je trouve d'autant plus intéressant qu'il souligne le fait qu'il soit important de ne pas donner l'impression aux patients que ce qui leur arrive soit dû au fait que quelque chose soit cassé dans leur tête. Car si on considère que quelque chose s'est cassé, indépendamment de notre volonté, on se sent impuissant. L'action et le pouvoir intérieur diminuent. Et je trouve ça vraiment important, cette idée. Et c'est une façon de bien choisir ses mots, et ça permet de réoffrir à chacun la souveraineté qu'il mérite, même en cas de trouble tel que la dépression. Catherine, elle n'est pas 100% d'accord avec tout ça, et c'est justement ça qui est intéressant. Comme je vous disais, les différentes écoles de pensée. Donc pour revenir à la dépression, vous l'avez compris, elle ne se résume pas à un simple coup de fatigue ou à une période de tristesse. On la repère quand une baisse de morale ou d'énergie dure plusieurs semaines et sans réelle amélioration et qu'elle affecte la vie quotidienne. Les signes les plus fréquents sont une tristesse profonde et persistante, parfois sans raison apparente, une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités habituellement appréciées, des troubles du sommeil, une fatigue constante, même après le repos, des difficultés à se concentrer, à mémoriser ou à prendre des décisions, une culpabilité excessive ou un sentiment d'inutilité, des modifications de l'appétit et de poids, et parfois des pensées de mort ou de suicide. Pour poser un diagnostic, il faut que plusieurs de ces symptômes soient présents au moins 2 semaines et qu'ils aient un impact réel sur la vie quotidienne. Le travail, les relations, la motivation. Mais attention, chaque personne vit la dépression à sa manière. Et chez certaines personnes, elle est très visible, isolement, pleurs, ralentissement physique. Et chez d'autres, elle est cachée derrière un masque et on continue de fonctionner. Mais tout semble vide à l'intérieur. C'est pourquoi on dit souvent que la dépression ne se voit pas toujours et qu'il faut écouter les mots, les silences et les changements de comportement.
Sont tu avec des pensées suicidaires, on va dire les termes, hein, parce que je pense qu'on a encore un peu de mal à le verbaliser, et aussi mon corps. C'est-à-dire qu'en plus, j'avais tout arrêté. Donc je me suis retrouvée en fait sans argent, sans boulot, sans activité en fait. Je suis passée de tout à rien. J'ai fait que dormir. Je dormais. Je pense que c'était ma solution pour fuir. Et c'était une très bonne solution. Au début, c'était très bien. Puis à force, on dort moins. Mais on passe plus de temps à cogiter. Je m'alimentais presque plus. Donc j'ai perdu énormément de poids. J'ai perdu du poids. Et ça s'est vu. Parce qu'on m'a fait des remarques. « Ah, t'as perdu du poids, t'as maigri. » Et du coup, j'étais même pas contente parce que les raisons pour lesquelles j'ai perdu du poids, c'était pas des bonnes raisons. C'était pas volontaire. C'était juste que j'étais rongée par l'anxiété, des crises d'angoisse, à vraiment pas dormir, à être réveillée toute la nuit, du coup, être en décalé. Et puis vraiment, un repas par jour. Il n'y avait pas, voilà, il n'y avait plus... Physiquement, je me sentais déjà... Visuellement, je me sentais moche, laide. Donc ça rajoutait de dire, voilà, de toute façon... J'avais que des pensées comme ça, de toute façon, t'étais vouée à ça. Enfin, voilà, t'es nulle, enfin, toutes les choses négatives qu'on peut citer envers soi-même. Et puis, l'envie de rien. L'envie de rien du tout. Il n'y avait rien qui me faisait rire. Rien qui me faisait kiffer. Il n'y avait aucun passe-temps, aucun hobby, aucune sortie, même voir des amis, la famille et tout. C'était une épreuve.
Physique, j'étais là. Physiquement, j'étais là, mais des fois, j'étais ailleurs. J'étais présent dans certaines situations et mon esprit était totalement ailleurs.
Y a beaucoup de problèmes intestinaux.
D'accord.
Du fait que la santé mentale joue beaucoup sur tout ce qui est système digestif. Du coup, énormément d'aigreur d'estomac, de mal au ventre un peu, de réveil, de barre au ventre. Après, il y avait mal au dos, migraine. Mmh. Bien que là, ça reste quand même dans le psychologique, mais migraine beaucoup.
En faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs types de dépression, et j'en ai retenu 2 en particulier. Et j'aimerais vous parler de ces 2 types de dépression. Pour commencer, il y a la dépression souriante. Selon Kerr, une dépression souriante, c'est une dépression qui est imperceptible pour votre entourage parce que vous semblez heureux. Toutefois, elle est très douloureuse car vous souffrez intérieurement en luttant pour cacher vos symptômes dépressifs. Et en masquant votre mal-être, derrière un sourire, vous contribuez à rendre votre état plus difficile à déceler. La dépression souriante, elle peut aussi toucher les adultes, mais aussi les adolescents, et il est donc important de rester vigilant à votre santé mentale comme à celle de vos proches.
Moi, j'ai jamais eu honte d'être mal dans mon esprit, mais ça a été malgré tout une période très complexe. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a la dépression souriante aussi. Je souriais, mais c'était pour éviter qu'on me pose des questions. Et puis voilà, il fallait pas trop montrer que toute la situation m'avait atteinte particulièrement. Donc voilà. Après j'ai quand même la crainte d'être perçu comme fragile, mais juste auprès de mes proches, pas les inconnus, tout ça. Ça m'importait peu.
Ensuite, il y a la dépression mélancolique. Selon psychologue.net, la dépression mélancolique, c'est la dépression qui est appelée trouble dépressif majeur. Elle est caractérisée par des sentiments de tristesse très profonds. C'est la forme la plus grave de dépression et elle est vraiment caractérisée par une perte totale de plaisir pour tout ou presque tout. Et en d'autres termes, les personnes atteintes de dépression mélancolique éprouvent des difficultés à profiter de différents, voire tous les aspects de leur vie.
D'accord. Donc dans la dépression profonde chez l'adulte, on va avoir une incapacité à se lever, une incapacité à s'occuper de soi, à prendre soin de soi, une incapacité à planifier sa journée, à s'organiser. Mmh. Dans les besoins fondamentaux de survie, manger, boire, dormir, ça va être compliqué. Voilà, on va se retrouver comme à l'état de bébé d'une certaine manière, avec une incapacité de prendre soin de soi et juste être dans une forme d'anesthésie générale, mmh, en attendant de ne plus rien ressentir du tout, parce que la tristesse ou la mélancolie est beaucoup trop profonde et beaucoup trop intense.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, on a parlé du lien entre le microbiote et la dépression. Et que par conséquent, la santé du corps, la biologie, notre chimie intérieure pouvaient avoir des conséquences sur notre état psychique et engendrer, voire empirer une dépression. Eh bien, il n'y a pas que le microbiote qui peut en être un des acteurs. Des études ont montré que de nombreux patients dépressifs présentent une activité mitochondriale diminuée dans les cellules du cerveau et du système immunitaire, qui pouvaient également présenter des marqueurs inflammatoires élevés, mais aussi une résistance aux traitements antidépresseurs classiques. Donc on parle aujourd'hui de dépression à composante inflammatoire. C'est une forme de dépression où le métabolisme cellulaire et immunitaire joue un rôle majeur. Pour vous vulgariser tout ça, je vais vous expliquer ce que sont les mitochondries et les inflammations. Les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de nos cellules. Elles transforment les nutriments, comme le glucose, les acides gras, etc., en énergie utilisable. Elle est indispensable au fonctionnement de notre cerveau et de notre système immunitaire et de tout l'organisme. Quand les mitochondries fonctionnent mal, les cellules manquent d'énergie et tout le corps s'en ressent. Quant à l'inflammation, c'est une réponse normale du corps face à une agression, qui peut être donc une infection, du stress, une mauvaise alimentation, la pollution, etc. Et quand cette inflammation devient chronique, elle envoie au cerveau des signaux qui modifient la production de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine ou le GABA. Et ce sont ceux-là qui régulent l'humeur et la motivation. Résultat, le cerveau fatigue, il devient moins réceptif au plaisir et à la stimulation, et c'est ce qu'on appelle parfois la dépression inflammatoire. Et la dépression, c'est pas qu'une question d'humeur, c'est aussi une question d'énergie. Et quand nos mitochondries sont épuisées et que l'inflammation s'installe, notre cerveau perd son équilibre biochimique. Conclusion, si vous avez des troubles dépressifs, questionnez-vous sur votre santé globale. Interrogez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur, à tous les niveaux, car la dépression ne serait plus uniquement une maladie du cerveau, mais plutôt une maladie systémique qui atteint le métabolisme énergétique de toutes les cellules du corps. Bon, déjà là, on sait un peu plus de choses sur la dépression. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque l'on ne va pas bien et que la vie n'a ni goût, ni désir, ni avenir, on n'a vraiment pas envie d'enquêter et de tout faire pour aligner son système nerveux. C'est souvent bien trop compliqué. Et parfois, la dépression, elle fait partie de notre vie depuis bien longtemps où elle n'a jamais été soignée ou traitée. On peut être dépressif en étant un nouveau-né ou un enfant. Et comment ça se fait ? La psychologue Zawa Belgaïd, que vous avez déjà entendue, va nous l'expliquer.
Alors en fait, ça va être, au risque de te surprendre, la modalité d'expression est la même chez le bébé, chez l'adulte, puisque le premier langage chez le bébé, c'est l'émotion. Ça va être les pleurs, les cris, dans les cas extrêmes, et puis le rire quand ça va bien, et les manifestations du plaisir qu'on peut retrouver chez le bébé. Ça va être les mêmes, c'est notre premier langage. L'émotion, c'est un langage corporel. Et c'est le même langage qui va se manifester quand la tristesse se présente. Ça va être dans le corps qu'elle va se présenter et on va la ressentir profondément et parfois avec une incapacité de pouvoir l'exprimer, de la formuler, de la partager ou de l'élaborer même. Hein. Okay. Donc, comme ce qui est le cas pour le bébé. Donc, ça va être à l'entourage et à l'environnement d'être attentif aux signaux. Aux signaux de détresse, qui vont être les pleurs, par exemple, qui vont être les cris, et la façon dont un bébé peut aller se réfugier, on va dire, pour se défendre de cette intensité de ses sensations et de ses émotions présentes, ça va être de les atténuer, de les anesthésier, de les éteindre, et par exemple, des bébés qui peuvent dormir. Peuvent se réfugier dans le sommeil, par exemple. Voilà, ça va être une forme de défense aussi contre l'intensité de ces sensations corporelles trop puissantes et menaçantes pour le bébé, parce qu'elles peuvent être déstructurantes, par exemple.
Parfois, la dépression ne surgit pas à l'âge adulte. Elle est déjà là, tapie très tôt, parfois dès les premiers instants de la vie. On peut être un enfant dépressif et même un nourrisson en souffrance psychique. Cela peut s'expliquer par de multiples facteurs. Une grossesse marquée par un stress intense, une dépression maternelle, des séparations précoces, des carences affectives, des traumatismes ou encore un environnement émotionnel insécurisant. Le cerveau et le système nerveux se construisent dans la relation, dans le lien, dans la sécurité. Et quand cette sécurité est fragilisée, très tôt, l'enfant peut intégrer un état de repli, de tristesse ou de survie comme mode de fonctionnement. La dépression n'est alors pas un événement, mais une organisation ancienne, silencieuse, qui s'inscrit dans le corps bien avant de pouvoir être mise en mots. Ce que l'on comprend en s'approchant de la dépression, c'est qu'elle ne se laisse jamais enfermer dans une seule explication. Elle n'est ni uniquement biologique, ni seulement psychologique, ni strictement liée aux événements de vie. La dépression, c'est un enchevêtrement de vulnérabilité, d'histoire personnelle, de facteurs biologiques, d'épuisement émotionnel, de stress chronique, d'inflammation, parfois de solitude ou de silence ancien. Elle peut être visible ou invisible, brutale ou insidieuse, courte ou profondément installée. Et surtout, elle n'est jamais une faiblesse morale, ni un manque de volonté. Et comprendre cela, c'est déjà déplacer le regard, sortir de la culpabilité, sortir du jugement hâtif et sortir de l'idée qu'il suffirait de se secouer. C'est une première partie où je pose les bases. Ici, j'ai voulu mettre les mots, ouvrir des pistes, accepter la complexité, et c'est parce que c'est seulement à partir de là, à partir d'une compréhension plus humaine et plus large, que l'on peut commencer à se demander réellement comment aller mieux. Et c'est ce que nous allons explorer dans la suite de cet épisode la semaine prochaine. Pour ouvrir notre regard, avant de questionner les solutions, j'ai décidé de parler de médecine tibétaine. En médecine tibétaine, la dépression n'est pas une maladie de l'esprit, mais un déséquilibre du souffle vital, ce qu'on appelle le lang. Le lang, c'est lui qui fait battre le cœur, bouger les pensées, circuler les émotions et digérer les expériences. Il n'est pas seulement respiration, il est ce mouvement invisible qui anime la vie. Et quand ce vent intérieur se dérègle, l'énergie se disperse. Le cœur s'agite et la joie s'éteint. Peu à peu, tout devient plus lourd, figé, comme si la chaleur intérieure s'était éteinte. Guérir, c'est alors ramener de la chaleur, du mouvement et de la présence à soi. Par la respiration, la douceur, l'alimentation, et la compassion. Je vous remercie à tous pour votre écoute. C'était Lisa pour Être Bien de la Radio Girafe. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!